même chose dans la Mahabharata hindoue, où on a effectivement aussi des personnages très vertueux, très admirables, très touchants dans le camp qui n'est pas le camp ayant le bon droit pour lui. C'est la même chose dans la Zyadevast de Koulé irlandaise, où on a le combat par exemple de deux amis qui sont dans des camps opposés, Koulin et Ferdiad. Et en fait, la raison de ça, c'est que les dieux sont dans les deux camps. Il y a des dieux dans les deux camps. Et donc, forcément, le bien est des deux côtés. Il ne peut pas être dans un seul camp. Je pense qu'on a perdu énormément dans notre finesse pour raconter les héros, pour raconter les épiques, avec le basculement dans le monothéisme, dans lequel Dieu ne peut être que d'un seul côté.
Et le monde héroïque.
Exactement.
Mais après toutes ces paroles sages, c'est un peu compliqué pour moi de reprendre. Mais vous avez tout droit, je crois, signaler, utiliser le mot admirable. Je pense qu'un héros n'est pas forcément un champion. C'est pas le plus fort, le plus beau, mais c'est vraisemblablement quelqu'un que nous jugeons le plus accompli dans sa sphère, dans ce qui nous intéresse, dans ce personnage, dans cette personne. C'est aussi peut-être celui qui est le plus authentique dans ce qu'il est, dans ses contradictions, dans ses zones d'ombre, dans ses zones de lumière. Et si on l'admire, ce n'est pas forcément parce qu'il est le plus charismatique, le plus beau, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un que l'on a envie d'étudier, d'observer, de voir ce qui résonne en nous par rapport à nos idéaux de dépassement de soi. Donc c'est vraiment, selon moi, un héros, quelqu'un qui est à étudier ou observer, plutôt quelqu'un à suivre ou qui nous guide. Hein. Le héros est pour nous plus une exigence à être plus que ce que nous sommes.
Je n'ai pas précisé au début, et ça me semble important de le faire. Il est clair que quand on parle de héros, on parle aussi d'héroïne. Hein. On est bien d'accord que c'est le terme global pour désigner une femme. Et surtout, du coup, en vous écoutant et en partant de ma première question sur est-ce que le méchant peut être un héros, est-ce que ça vous semble important de faire la différence entre les héros et les héroïnes et les protagonistes? C'est-à-dire que est-ce que vous pouvez écrire une histoire sans un protagoniste héroïque? Est-ce qu'il peut y avoir un protagoniste principal ou une bande de protagonistes à la Martine, un peu comme dans votre roman, puisqu'il y a un roman avec plusieurs regards, c'est pas toujours la même personne qui raconte. Est-ce que, pareil pour Séverin, enfin, c'est pas toujours la même personne qui est centrale, en tout cas, voilà, est-ce que vous faites la différence entre protagoniste et héros?
La différence effectivement entre le protagoniste qui est vraiment le rôle dans une intrigue, la personne sur qui est centrée l'intrigue. Donc il peut y en avoir plusieurs, hein, c'est pas forcément. Par exemple, effectivement, j'ai écrit un roman où il y a trois protagonistes, donc il y a trois voix différentes dans le roman. Martin, je sais pas combien d'un mot, on va arrêter de compter, mais aussi effectivement des.
On peut discuter. C'est vrai, il y a de l'attrition aussi.
C'est vrai que les gens se centrent la narration. Et après, ça me gêne toujours un peu le terme héros. Je préfère parler d'acte héroïque plutôt que de héros à proprement parler. Parce que pour moi, c'est vraiment. On est, entre guillemets, héros par les choses qu'on fait et pas par nature. Et je préfère me souvenir de cette distinction parce qu'on a très souvent tendance à l'oublier. Et il y a cette tendance à vouloir faire quelque part une espèce de. L'adoration un petit peu servile du héros avec quoi qu'il fasse, il va se tromper, de transformer quelque part le héros en messie. Ce qui me pose, comme je le mentionnais précédemment, beaucoup de problèmes. Et à partir de là, il y a aussi les antagonistes qui sont simplement les gens qui s'opposent aux protagonistes, c'est pas forcément des méchants, c'est simplement des gens qui s'avèrent avoir des objectifs qui sont pas les mêmes. Et il faut voir ce qu'eux font. Alors bon, chez moi, ils ont un peu plus tendance à faire des choses pas très très réglo et. Parce que ça se passe dans un hiver, c'est ce genre de choses qui arrivent un peu comme Martin, quoi. Mais je trouve ça d'accord.
C'est ça.
rejoins complètement ce que tu as dit, Aliette, sur la distinction entre être héroïque et acte héroïque. Et c'est vrai que définir un héros en soi, en fait, de manière essentialiste, c'est nier complètement l'existence humaine, le fait qu'on est confronté à des événements, à des circonstances, à des choix en permanence. Et ça, le héros qui serait héros par essence, il ne serait pas humain, tout simplement. Ça peut être un archétype, ça peut être une divinité, mais pas un humain. En ce qui me concerne, le héros protagoniste, c'est aussi la même chose que pour Aliette. J'ai besoin, moi, dans mes livres, je le constate à travers mes trois séries, Jack Spark, Animal et Frost, de découvrir mon intrigue, de découvrir mon roman à travers les yeux d'un protagoniste. Jack Spark dans un câble, on voit Animal, Léonard dans Phobos. Mais je constate aussi que ce personnage n'est jamais le plus héroïque au sens où celui qui ferait toujours les choix moraux infaillibles. Il y a souvent dans son entourage un adjuvant, comme on dit, un personnage secondaire qui va lui servir un peu de modèle vers lequel il va tendre, qui sera peut-être plus parfait que lui. Moi, ce qui m'intéresse, j'aurais pu choisir de mettre la lumière, d'utiliser la première personne pour parler à travers les yeux de cet adjuvant. Parfait, mais ça m'intéresse un peu moins. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un personnage principal qui soit justement en proie au doute. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Les choix auxquels on est confronté, j'ai l'impression que la littérature nous aide, que ce soit la littérature fantastique ou toutes les littératures, à prendre nos propres décisions dans la vie, à faire nous-mêmes des choix. On les vit déjà par procuration à travers les personnages qui sont confrontés à des situations extrêmes qu'on n'a peut-être pas rencontrées dans notre vie jusqu'à présent, qu'on rencontrera peut-être dans le futur. Et à travers la fiction, à travers le romanesque, on est amené à réfléchir avec eux ces situations et à prendre parti.
Alors moi, j'avais longtemps pris le parti de faire de ma saga une histoire sans héros ou à héros multiples. Je me reconnais encore aussi pleinement dans le héros en tant que moment provisoire, en tant qu'acte qui peut être contredit. Hein, dans mes héros, des personnages, j'avais d'ailleurs planté des gens comme Mahatma Gandhi, qui n'a pas toujours été cool avec les femmes, comme le chanteur de Noir Désir, que je n'ai pas commenté, et d'autres qui ont été des héros qui se sont héros comme Rimbaud, qui a vendu des fleurs. Donc tous des héros qui ont en fait à côté de ça une tâche, qui ont fait aussi des choses qui étaient vraiment très anti-héroïques. C'est des choses que je trouve intéressantes, c'est quand le héros est ambivalent. Et donc moi, j'ai des personnages qui sont sur un bateau, qui remontent la fleur dans une forêt boréale, donc ils sont loin de l'humanité, ce qui permet de faire ressortir d'autant plus leur humanité à eux. Et j'ai vraiment décidé que le flambeau de l'héroïsme était quelque chose qui passerait d'un personnage à l'autre. D'ailleurs, les personnages dans ce bateau peuvent se retrouver ou découvrir qu'ils sont ennemis ou ne plus travailler ensemble, peuvent s'entrechoquer ou apprendre à se connaître au contraire. Je tiens à ce que ce flambeau de l'héroïsme puisse se retrouver dans des mains étonnantes. On a en fantasy, on a l'habitude des puissants guerriers ou du pauvre berger, mais alors il faut qu'il soit l'élu, ou des grands magiciens, etc. Je me suis rendu compte à la fin de mon tome 1 que celui qui avait le plus pesé sur l'histoire, c'était complètement inattendu pour moi. J'avais été un simple batelier qui savait juste nager et conduire un bateau, mais que c'est lui qui avait accompli le plus d'actes héroïques et à la fois le plus pesé sur l'histoire, simplement parce qu'il avait agi à un moment avec le cœur sous de véritables impulsions. Il avait complètement échappé une fois ou deux. Ou que l'héroïsme peut aussi arriver dans les mains ses renoncements. Il est dans la gestion ou la non-gestion de ses démons intérieurs. Et lorsqu'il essaye de trouver un équilibre entre ses zones d'ombre et ses zones de lumière, donc en fait, il ne sait plus trop se positionner par rapport aux événements extérieurs. Et c'est lorsque l'ensemble de sa démarche parvient à l'épurer de ce qui l'encombre dans sa personne et dans ce qu'il se projette ou se croit être, qu'à mes yeux, il devient héroïque. Et il devient, comme vous l'avez souligné, soit un espace de temps fugace. Il est le héros, enfin, à ce moment-là. Alors j'ai choisi de le faire disparaître, parce que à ce moment-là.
Est-ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que le vrai héros, c'est forcément un paladin irréprochable? Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Visiblement non. Mais est-ce que c'est dans le vocabulaire commun et dans la façon dont on voit de façon commune les héros, est-ce que c'est pas celui qui sauve les situations ou bien celui qui se sacrifie pour le bien de tous? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de notion de quelqu'un qui met fin soit à ce qu'il est lui-même en se sacrifiant, soit à une situation négative en sauvant une bataille, en se mettant en danger? Est-ce que c'est pas des, vous avez évoqué l'acte héroïque, mais est-ce que c'est pas des personnes qui s'effacent au profit de ce qui est à faire?
Non, mais héros, j'en avais pointé une que tu n'as pas aimé beaucoup, une certaine Rosa Parks, qui avait déclenché quelque chose d'important en refusant de céder sa place dans le bus, ce qu'elle était censée faire à l'époque en tant que femme de couleur. Le héros peut être quelqu'un qui initie quelque chose parce qu'il a posé à un moment donné un acte marquant qui, parfois par hasard, a provoqué quelque chose, a provoqué un vrai changement. Et alors le héros devient, au-delà de l'homme, devient quelque chose de mythique, quelque chose qui n'est plus exactement ce que la personne a été probablement, à savoir un point de repère pour les autres hommes.
Je pense que l'exemple que tu prends de Rosa Parks est très parlant sur l'évolution justement de ce qu'est un héros ou un acte héroïque. Parce que si on retourne au sens mythologique premier du terme, les héros dans la mythologie grecque, ce sont ceux qui combattent les monstres. Donc c'est ceux qui combattent les anomalies, les expressions du chaos pour restaurer l'ordre, l'ordre établi de tout temps, l'ordre des dieux olympiens. Et Rosa Parks, elle a fait l'inverse en fait. Elle a fracassé l'ordre établi, elle a fracassé la norme pour faire advenir un autre monde. Et ça, c'est un vrai glissement, c'est complètement différent. C'est le héros qui détruit l'ordre ancien qui a été injuste pour faire advenir un ordre nouveau.
Moi, je trouve aussi, j'avais en fait noté ça avant que tu poses la question. Je pense qu'il faut aussi faire la différence entre le héros et le faiseur d'histoire. C'est pas forcément la même chose. Dans le sens que c'est vrai que les gens qui font, comme Rosa Parks par exemple, qui font des actes qui sont super marquants, qui commencent, qui finissent des choses qui sont très importantes, ce sont des gens qui font des actes héroïques. Mais par exemple, si on prend les réfugiés syriens, c'est des gens qui vont partir dans un endroit en guerre et qui vont lutter pour arriver à des endroits de refuge et qui vont faire un parcours qui est véritablement héroïque, mais qui vont faire pour leur survie à eux et la survie de leurs proches. Et ça va pas forcément être des actes super marquants d'un point de vue de l'histoire, quoi. Ça va être des petits grains de sable dans une énorme plage. Et pour moi, quelque part, pour définir un acte héroïque, c'est vrai qu'il y a un espèce de sacrifice personnel pour quelque chose qui dépasse la personne. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, ça peut simplement être la famille, mais au moins quelque chose qui soit pas purement égoïste.
Alors, dans ce que vous avez dit, je ressens le fait que, en fait, le héros existe parce qu'on pose un regard sur ce personnage-là et sur l'acte de ce personnage-là. Il devient héros parce qu'on
pompiers, policiers, psychiatres, par exemple. J'ai un ami qui a passé, je ne sais pas combien de temps, c'est pas 20 000 personnes qui allaient se suicider, et qui a franchement autre chose à faire pour son dimanche, et à qui on n'a rien vraiment demandé. Je crois pas encore ce serait moins méritant que quelqu'un qui a une grande épée et une envie d'aller tuer quelques envahisseurs. Et c'est vrai que quelque part, la fantaisie a beaucoup tendance à être guerrière, et quand elle n'est pas guerrière, elle aussi. Tendance à être, je dirais, une certaine conception de l'histoire avec vraiment la haute fantasy, donc les rois, la cour, les gens d'assez haut niveau. Alors, c'est pas qu'il n'existe pas de la fantasy, c'est plutôt qu'il focalise sur les petits gens, par exemple, les mensonges de la Mora, c'est vraiment des voleurs et des gens.
Originalement, dans le bar, voilà, le héros monte forcément quand il va y avoir à rester petit.
Voilà, bon, on parle bien qu'il ne monte pas vraiment non plus. Il est toujours occupé à essayer de préparer le cas du siècle pour des motifs qui sont assez égoïstes. Il fait des acteurs avec un petit peu par accident, quand même. J'ai perdu le fil. Mais donc, pour moi, c'est pour ça que je pense qu'on arrive à avoir une focalisation sur le héros en tant que héroïne, d'ailleurs en tant que guerrier ou guerrière, plutôt qu'en tant que personne qui sauve des vies. Personne qui est obligé de fuir une guerre, ou personne qui va se dresser contre des soldats qui essaient de mettre le feu à sa boutique, ou à autre chose, qui sont des actifs tout aussi héroïques que des actifs des gens de bataille.
Moi, je ne peux pas spoiler, je ne peux pas me spoiler moi-même, mais le plus grand héros, héroïne de ma saga, sera un personnage qui est tout à fait inattendu et qui va l'être par l'endurance. Par l'endurance, les sacrifices, donc c'est. Voilà, c'est
gentil.
Je pense que le public, en particulier en fantasy, ça fait un certain temps que les gens ont envie d'exploser les codes, d'exploser les schémas habituels, et qu'ils sont prêts pour des tas de formes de héros, d'héroïsme, et pour bouleverser les codes. Il y a quelques ratés. Il y en a un qui m'a très profondément déçu, parce que je le voyais autrement, c'est la fin d'Harry Potter. Je ne spoil personne si je raconte la fin d'Harry Potter. Mon frère, tu me disais aussi.
Ça vous attendait pas, c'est complètement exceptionnel. professionnel ou les gens de renom, pas d'histoire, je sais bien, mais quand même.
Brièvement, parce que j'ai parlé avant. Alors, je pense pas qu'on a besoin forcément d'un héros, on a besoin de personnages auxquels on peut s'identifier. À partir de là, tout est ouvert.
Moi, j'ai l'impression que dans la vraie vie, on a besoin, une fois encore, ça va devenir le leitmotiv de cette conférence, acte héroïque, auxquels se référer, qui ont une valeur d'exemplarité, qui peuvent nous inspirer. Plus que de héros, vraiment, j'insiste sur le côté acte héroïque. En revanche, dans la fiction, ce que je constate, si on regarde les productions culturelles, ciné, séries et autres récemment, on a plutôt l'impression qu'on a besoin d'anti-héros. Quand on regarde les House of Cards, Game of Thrones et ainsi de suite, on a beaucoup de personnages principaux vraiment négatifs qui poursuivent des objectifs parfois immoraux, inavouables. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces anti-héros aujourd'hui? Pourquoi il y a une appétence pour ça? C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais voilà, je relance. Mais c'est ce que je constate en tout cas.
Je ne vais pas aller dans ton champ, donc je ne répondrai pas à ta question. Mais comme on écrit pour l'essentiel des récits épiques, le héros quand même surgit naturellement dans le processus. Je ne dirais pas que c'est dans nos politique, mais c'est vrai que le héros, c'est-à-dire l'individu qui se dépasse et qui nous dit comment se dépasser, reste quand même un élément central dans notre démarche de raconter une histoire, je crois. Enfin, en tout cas, c'est vrai pour moi. Bien que je me sois défendu au départ, mais peut-être que je me suis laissé entraîner par ce personnage de héros qui, en fait, m'a inscrit dans cette trajectoire.
Je rejoins Victor sur le fait qu'on avait besoin de héros, vraiment des gens qui font des actes héroïques en tant que modèle, en fait, de choses qui nous montrent ce vers quoi on peut aspirer la meilleure partie de nous-mêmes. Je pense qu'une partie de la fascination, justement, avec les anti-héros, c'est l'inverse, c'est plutôt de voir où nos pulsions les plus sont nous-mêmes. Et quelque part, toutes ces choses que la société, notamment, et que la conscience, etc., nous empêche de faire, qu'est-ce qui arrive quand d'autres personnes les font? Parce que là, il y a quand même une certaine une espèce de flirt avec l'interdit, en fait, qui est très fascinant pour beaucoup de gens, moi y compris. Après, bon, si on parle vraiment de héros au sens protagoniste, moi, je suis plus fanat du personnage que le lecteur a intérêt à suivre. Donc ça peut être parce qu'on est attaché à lui qu'on veut savoir ce qui lui arrive après. Après, moi, j'ai un perso qui est super désagréable et qui est donc un ange déchu qui n'a que très peu de principes et qui fait n'importe quoi pour préserver les siens. Mais quand je dis n'importe quoi, c'est une très bonne image de réflexion sur le sujet. Et là, la fascination, c'est pas tellement on a envie de savoir ce qui va lui arriver à part si les choses vont lui exploser à la figure éventuellement, mais c'est qu'est-ce qu'il va faire ensuite. Et quelque part, le jeu, pour moi, en tant qu'écrivain, c'est que le lecteur continue à tourner la page. Donc, si vous, je peux tout à fait continuer à avoir l'intérêt du lecteur en lui présentant des personnages auxquels il s'attache et qu'il a envie de voir survivre et qui veut savoir ce qui va leur arriver. Je peux aussi leur présenter des personnages ou des événements ou quelque chose qui attire l'intérêt, en fait. Ça peut être beaucoup de choses. C'est, effectivement, c'est plus facile de faire ça avec le personnage auquel on s'attache, c'est quand même un petit peu moins explosif. Avec le personnage en question que j'ai mentionné, c'est toujours un petit peu délicat parce que si le lecteur a envie de jeter le livre à travers la fenêtre parce que vous l'avez trop énervé, bon, là j'ai un peu raté.
Surtout s'il est sur ta bête.
Je me dis que le seuil avant qu'il jette la tête, c'est plus important dans le film de marche.
Je repensais justement à l'histoire de l'anti-héros. Est-ce que tu dis très juste le fait que ça exprime des pulsions, des choses qui sont réprimées par la société, donc c'est forcément jouissif de le voir mis en scène sous forme de fiction. Mais je pense qu'il y a autre chose aussi. Il y a cette tension toujours vers la rédemption possible. Et on le voit souvent dans les œuvres narratives, des œuvres qui mettent en scène des anti-héros, que rien n'est joué avant la fin d'une existence. Et une fois encore, ça met l'accent sur l'acte héroïque plutôt que le héros par essence, que les personnages les plus négatifs ont jusqu'au bout la possibilité de se racheter. Et c'est ce qu'on attend aussi quand on lit ce genre de livre, quand on voit ce genre de série. Il y a une vraie tension dramatique qui est liée à ça, au destin du personnage, à sa rédemption ultime possible. Et si je prends l'exemple de qu'il y a certains personnages qui apparaissent vraiment très négatifs, très manipulateurs. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de ne pas les condamner d'emblée et de voir au fil de leur développement la manière dont ils sont confrontés à des choix, une fois encore, où ils peuvent gagner leur vie. Parce que moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est des personnages qui ne sont pas unilatéraux, qui ne sont pas présentés, posés dès le début comme mauvais ou bons, mais qui oscillent entre ces deux pôles. Et c'est uniquement à la fin de l'histoire qu'on peut décider qui ils sont vraiment.
Si je reviens à l'Antiquité, parce qu'encore une fois, il y a vraiment déjà beaucoup de choses dans le héros antique. Le héros antique, je crois que la définition la plus courante, c'est quelqu'un qui a effectivement des capacités exceptionnelles, qui est héroïque au sens qu'il est balèze. Mais le anti-héros, il peut être anti-héros de façon assez marquée et servir d'exemple aussi, servir d'exemple de transgression. C'est le rôle entre guillemets, éducatif du mythe. Il y a quelques personnages qui sont très fascinants. Thésée, c'est quand même un salopard, il a abandonné Ariane. Orphée, il s'est complètement planté dans l'histoire parce qu'il n'a pas résisté. Bon, il y a évidemment Oedipe, forcément, qui dit beaucoup de choses. Le héros peut être un point de repère, mais sur les limites morales et sur l'interdit. Moi, j'aime beaucoup le grand Ajax, par exemple, dans l'Iliade, qui est un grand héros qui va un jour aller rechercher avec Ulysse le corps d'Achille chez l'ennemi. Parce que voilà, ça leur amène à tous les deux. Et puis avant, ils vont commencer à entrer en rivalité pour qui va obtenir les armes d'Achille. Et ça va se jouer de différentes manières. Ça va être jugé par les dieux, etc. Et comme Achille, comme Ulysse, c'est quelqu'un qui parle très bien et que Ajax, pas du tout. Ajax va se faire pas mal pion. Il va tellement mal le vivre au niveau de l'orgueil qu'il va commencer à dégénérer vraiment au point qu'il va entrer en fureur et massacrer le bétail en pensant qu'il a affaire à ses compagnons grecs et finir par se suicider. Donc là, on a une illustration de la blessure d'ego, de la blessure d'orgueil dans le mythe qui est en fait très très fort. C'est un passage qui est finalement très peu connu et qui est génial.
Oui, avec un gros ego quand même.
Un très gros ego, mais c'est intéressant parce que ça montre comment certaines personnes peuvent rentrer dans un cycle de boule de neige qui grossit elle-même de rancœur qu'on n'arrive plus à arrêter. Quoi.
Fasciné par ta présentation de la mythologie, parce que pour le coup, moi, j'adore l'Iliade et l'Odyssée aussi. Moi, mes vrais héros dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est Cassandre, c'est plutôt Ariane. Du coup, il y a une très belle série de fantasy qui utilise Ariane comme la maîtresse des labyrinthes, justement, et qui fait que toutes les cités sont construites sur des labyrinthes, et que tant qu'on n'a pas réussi à défaire le labyrinthe, on ne peut pas vaincre la cité, et qui explique que Troie a été vaincue parce que Ariane a montré à Thésée comment vaincre le labyrinthe. Oui, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a aussi des. Justement, voilà, pour moi, Cassandre, c'est typiquement la personne qui se sacrifie en permanence, qui continue à parler alors qu'elle sait qu'elle n'est pas crue, et qui avance au quotidien avec ce poids. Pour moi, c'est ça que j'appelle une protagoniste héroïque.
C'est des images fortes, en fait. Hein. Je n'ai pas dit que j'aimais Ajax. Hein. Mais par contre, j'ai vu autour de moi un jour, j'ai vraiment assisté à ça, quelqu'un qui s'est pas débarrassé de cette boule de neige de rancune. Et donc, du coup, je suis marqué par le personnage d'Ajax, que je trouve qu'il dit vraiment quelque chose de fort de l'humanité. C'est vraiment un grand repère. Ce que tu dis, c'est un autre grand repère qui est super intéressant. D'ailleurs, tout va très très mal finir. Hein. Je voulais vous le dire. Le monde va mal.
Est-ce que dans l'idée du vaisseau spatial et donc de huis clos, est-ce que c'est pas plus facile justement d'être la révélation de sa vraie personnalité, du coup d'être moins héroïque qu'on peut l'imaginer?
Ce sont de toute façon les circonstances qui nous révèlent, et qui nous révèlent aux autres certes, mais qui nous révèlent aussi à nous-mêmes. On ne se connaît pas avant d'avoir été confronté aux choses, aux événements. On dit souvent qu'on ne peut pas savoir comment on réagirait en conditions de guerre tant qu'on n'y est pas. Et c'est vrai, hein, le fait de mettre ces personnages issus de milieux différents, qui ont toutes leurs motivations différentes dans un cadre très confiné, ce vaisseau spatial, pendant une durée de temps assez longue, c'est un huis clos, et forcément c'est un révélateur. C'est une expérience, en même temps, c'est un des plaisirs de la littérature, c'est une expérience presque de chimie, avec des éléments contraires, certains compatibles, sur les plaisirs dans les autres, d'autres a priori explosifs, et on voit comment ça se déroule. Et c'est sûr que ceux qui partent, qui étaient présents au départ, ne seront pas les mêmes à l'arrivée. Il sera passé des choses entre-temps.
Aliette, vous trois héros sont un peu confinés dans leur forteresse, puisque la ville est très très dangereuse. Et du coup, est-ce que ça révèle vos protagonistes? Du coup, je vais arrêter de dire héros.
Oui, enfin, tout à fait. Mon roman se passe dans une version un petit peu post-apocalyptique de Paris, qui a été dévastée par une première guerre mondiale qui s'est passée entre des factions de magiciens plutôt qu'entre des pays avec des soldats. Et donc, la ville est en ruine. C'est 50 à 60 ans après, c'est toujours très difficile de survivre parce que vous trouvez des mines magiques un petit peu partout. La Seine est noire de résidus de sorts de combat et vous ne savez jamais trop de quoi va être fait demain. Et donc, dans ce cadre-là, il y a effectivement beaucoup de factions qui ont rassemblé des espèces de petites forteresses au milieu des ruines et qui essaient tant bien que mal de défendre à la mort leur territoire sans pour autant refaire à nouveau une nouvelle guerre. Donc, il y a une espèce de guerre sourde, de guerre un petit peu froide qui s'engage entre ces différentes factions. Et c'est vrai que quand j'ai des personnages qui sont dans un univers un petit peu extrême comme ça, ça force aussi des comportements qui sont eux aussi un petit peu extrêmes. Et vraiment, les deux personnages qui, je pense, font les actes les plus héroïques et les plus moraux du roman, donc il y a Madeleine qui est donc assez bas dans la hiérarchie d'une faction et qui se pose des questions sur quelle est la bonne chose à faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit moral. Tous les autres personnages, je pense qu'elle est un peu simple d'esprit et qu'elle a l'impression depuis longtemps qu'elle a bien de la chance que sa maison la protège parce que c'est bien pas la façon de survivre. Bon, je note que je ne sens pas trop mal quand même. Hein. La deuxième personne, donc il y a un ange des cheveux très naïf qui s'appelle Isabelle et qui elle débarque un petit peu et qui ne comprend pas pourquoi le monde ne peut pas être tel qu'elle l'imagine. Elle aussi a énormément de mal à se faire à cette univers-là parce qu'en permanence elle se heurte à des espèces de barrières dont elle ne comprend pas l'existence. Elle dit pourquoi les choses devraient être comme ça, je ne comprends pas. Et c'est vrai qu'elle est simplement faite pour une époque qui est morte 60 ou 70 ans avant quand la guerre a eu lieu.
Question, je vais répondre.
Est-ce qu'on est dans le besoin des héros?
Alors, moi, ce qui me questionne, c'est est-ce qu'on est dans une. Aujourd'hui, là, au moment où on parle, est-ce qu'on a besoin de héros dans notre société? Est-ce que, à travers nos envies de lire, on ne crie pas derrière le besoin de faire émerger des vrais héros dans notre vie quotidienne et comme nous l'avons évoqué, pas forcément le personnage sorti de la cuisse de Jupiter, mais peut-être des héros du quotidien. Et ce qui me frappe dans la façon dont on essaye d'aborder les écrits épiques que l'on met en place maintenant, sans s'être concertés les uns les autres, c'est de faire émerger des mécanismes héroïques, comme si ça correspondait aux besoins profonds de notre époque d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'écris de la fantaisie, parce que je pense que c'est le meilleur vecteur pour poser des interrogations, non pas esquisser des réponses, mais poser des interrogations en éliminant, je dirais, les escroqueries de notre contrainte quotidienne. Et les héros que l'on choisit de bâtir, et les instants héroïques que l'on choisit de dessiner, reflètent peut-être notre démarche de recherche de héros dans notre vie de tous les jours.
Il y a un livre que j'aime beaucoup, et je ne peux pas être la seule, qui s'appelle Le Monde du Vent, dont le personnage principal est quelqu'un qui a renoncer à l'héroïsme parce qu'il en a déjà fait beaucoup trop et qu'il vit comme un reclus. Est-ce qu'à un moment on ne devient pas un vrai sage? Est-ce que le héros intéressant, c'est pas celui qui a renoncé à la gloire, à l'honneur, à jouer la place centrale et qui s'est un peu effacé et qui laisse du coup la vie se continuer sans lui? Il a résolu une situation et puis après il se met en retrait. Est-ce que vous sentez vos personnages capables de ça?
Pour moi, ils sont dans cette tendance-là, hein, dans cette évocation-là. Alors, c'est vrai que dans mes écrits, en fait, les paysages et les sensations sont aussi les éléments héroïques du livre. Donc c'est pour ça que parfois c'est un peu perturbant à la lecture. Si vous dépassez les 40 premières pages,
des choses que j'ai toujours trouvées très belles dans Le Seigneur des Anneaux, outre le fait que le héros soit justement un vrai héros, quelqu'un de petit, de modeste, qui va assumer le fait de faire ce qui doit être fait. C'est son départ, c'est son cerveau gris, c'est que Frodon paye le prix du choix qu'il a fait. Il paye le prix douloureux que payent beaucoup de héros de guerre, par exemple.
Victor Wallet, est-ce qu'il y a une capacité à la mise en retrait des protagonistes, puisque tant que l'histoire n'est pas finie, c'est un tout qui reste au milieu et le monde a besoin d'eux.
Tous mes personnages, est-ce que vous vous sentez comme des héros ou est-ce que vous cherchez la gloire, etc. Et vous regarderez tout ça un petit peu avec. On ne comprend pas tellement de quoi vous voulez parler. Et c'est pas vraiment pas. Je pense aussi qu'il faut faire le pas. Être héros et être connu et être adulé, c'est encore pour moi des notions qui sont différentes. On peut parfaitement faire une chose qui est tout à fait morale et ne pas être reconnu, que ce soit de son vivant ou après son vivant. Ça n'enlève rien au réel de la chose pour moi. C'est vrai que moi je trouve effectivement la scène de départ pour les Avengers de Frodon, j'ai vu ça effectivement aussi très beau. Dans la culture taoïste, confucianiste, etc., il y a toute une valeur qui est mise sur le retrait du monde, les sages qui se retirent et qui contemplent la nature jusqu'à ce qu'ils comprennent comment fonctionnent les choses. Qui en fait laisse faire les choses et laisse couler les choses, et que ça, c'est l'achèvement le plus complet auquel puisse tendre quelqu'un.
Par rapport à tout ce qui a été dit, c'est très vrai. Je me redis aussi sur Tolkien, et je me rends compte en écoutant que c'est un motif sans doute dans l'œuvre de Tolkien, parce que dans Bilbo, qui a précédé Frodo, lui aussi se retire, il disparaît pendant sa soirée d'anniversaire. Et dire ça à l'avance, donc il y a quelque chose comme ça, cet effacement chez Tolkien et les elfes eux-mêmes, qui étaient la race héroïque d'un autre âge, qui quittent le monde. C'est une idée qui est très belle. Et j'ai l'impression que ça rejoint aussi la distinction qu'on avait un peu plus tôt pendant la conférence entre le champion et le héros, qui se définit finalement par des moments héroïques. Le champion, c'est celui qui est tout le temps sous les feux de la rampe, qui incarne quelque chose, qui investit une mission sacrée et qui ne quitte jamais la scène. Alors que le héros, défini par des actes héroïques, finalement, il ne va pas choisir de rester sur scène tout le temps, c'est plutôt les circonstances qui vont le confronter une fois encore à des choix, et là, il choisira de faire quelque chose d'héroïque ou pas. Et par rapport au retrait du monde, c'est très vrai qu'il existe dans les traditions orientales, mais aussi dans la tradition occidentale, et depuis très longtemps, on l'a un peu oublié, mais l'idéal monastique, et même l'idéal de l'ermite, encore plus des anachorètes, ça c'est quelque chose qui a marqué complètement notre culture, et c'était perçu comme héroïque de partir dans le désert, s'enfermer jusqu'à la fin de ses jours. On avait au Moyen-Âge ces religieuses qui s'emmuraient vivantes. Il y a un très beau roman du domaine des murmures, Carole Martinez, que je vous invite à lire, qui est superbe sur ce thème-là. Et c'était des choix complètement héroïques qu'aujourd'hui, on a tendance à juger égoïste, le fait de se retirer complètement du monde. Mais c'est un idéal qu'on a un peu perdu dans une société hyper connectée. On est tout le temps dans la tête du like, de la reconnaissance d'autrui, d'une gloire éphémère. On a un peu ce miroir aux alouettes de tous ces écrans qui nous entourent. Et mes personnages dans Phobos, qui sont filmés 24 heures sur 24, sont complètement pris dans ce jeu-là. Et bien, j'ai l'impression qu'un des remèdes possibles, ce serait de remettre au bout du jour cet idéal monastique de retrait.
Mais en même temps, quand on est derrière son écran, on est un petit peu retiré du monde physique. On est connecté, mais on est un peu retiré du monde. C'est d'ailleurs ce qui est reproché à toute une génération ou à plein de gens qui fonctionnent beaucoup.
On a une illusion, en tout cas, d'hyperconnexion et d'être très présent. Alors, on ne le peut peut-être pas authentiquement, uniquement virtuellement, et c'est là-dessus, c'est sur ce paradoxe que se construit notre société aujourd'hui. On ne peut pas le gagner.
Oui, je pense que la notion de reconnaissance du héros pour ses mérites est importante, parce que tous les héros ne sont pas reconnus pour leurs mérites, parfois même au contraire, et même souvent de leur vivant, au contraire. Rosa Parks a dû affronter une hostilité terrible, d'autres héros pour ce qu'ils ont fait ont été maudits, haïs, voués aux gémonies. Je pense qu'un vrai héros, il va falloir qu'il mette sérieusement de côté la question du regard des autres et de traîner et d'avoir de la reconnaissance, parce qu'il leur souvent il n'aura pas, ou quand il n'aura pas, il ne sera plus là pour le goûter. Et donc, c'est sans doute même une des caractéristiques du héros, c'est de ne pas se soucier d'être reconnu comme héros, parce que sinon, il ne pourra pas faire ce qu'il doit faire pour être héros. Il sera un opportuniste, une girouette, mais il ne sera souiller le corps du héros, d'humilier le corps du héros en lui greffant une tête d'un autre héros, en lui greffant une tête de loup. Donc il s'est permis de malmener ses héros d'une façon qui est une claque formidable à tous les codes qu'on respectait jusque-là en fantasy, ou plus généralement dans la littérature d'aventure, dans la littérature héroïque.
Il y a aussi peut-être des lecteurs de Game of Thrones qui, comme moi, trouvent très longtemps à l'avance que Ned est plus l'archétype du bon gars qui se fait avoir que du héros. Il est sympathique, mais il n'est pas aussi. Il n'est pas très douté, merci. Enfin, en tout cas, il est mal adapté à la cour d'intrigue sournoise où il pense naïvement que tout le monde va avoir la bonne grâce et lui expliquer ce qui se passe. Il va quand même aller voir Cersei et lui dire « Bon, si tu veux pas tes crimes, je vais faire en sorte que ça se sache et les attendre tranquillement à ce que... » Je pense que tu as légèrement négligé la situation à ce moment-là. » Et puis, il n'écoute pas ses filles, il n'écoute pas la femme. Voilà, il est... Enfin, clairement, c'est le personnage de la maison Stark qui me semble...